et sciences.
Premier sujet de ce journal, un sujet qui a fait grand bruit cette semaine, la présumée naissance de deux jumelles, Lulu et Nana, les premiers bébés qui seraient génétiquement modifiés, Natacha.
Oui, il faut bien insister sur le mot présumé, hein, car pour le moment, c'est surtout un effet d'annonce, hein, il n'y a aucune preuve expérimentale et les résultats n'ont pas été validés par des experts. Il n'empêche que toute la communauté scientifique est secouée par cette nouvelle. Alors, rappel des faits, lundi, à la veille du sommet international de l'édition du génome humain à Hong Kong, le chinois Yi Zhangqi a annoncé avoir modifier le génome d'embryons afin de les rendre résistants au virus du sida, les pères des jumelles étant séropositifs. Alors, la technique utilisée, c'est celle du CRISPR-Cas9, qui est aussi appelée cisogénétique. L'université de Shenzhen à laquelle le chercheur est rattaché dit ne pas avoir été averti et une enquête est ouverte. Déborah Bourquier, épigénéticienne à l'Institut Curie à Paris, elle était sidérée par cette annonce, alors déjà d'un point de vue protocolaire, et puis elle revient sur les carences dans l'autorégulation de la communauté scientifique.
Il y a bien sûr la question, est-ce que ça a vraiment été fait ou pas? Parce qu'il y a eu beaucoup d'effets d'annonce qui ont déjà été faits en Chine. Il y a aussi la manière dont ça a été diffusé, en fait. Donc, au lieu d'attendre de présenter ces résultats dans un cadre scientifique type consortium international ou conférence, il a préféré, en fait, montrer d'abord des photos des enfants sur YouTube. Donc ça, c'est aussi quand même quelque chose de fou, quoi. Il n'y a pas de papier qui a été évalué non plus par les pairs, hein, indépendants qui... Normalement, en fait, pour tout ce qui est manipulation d'embryons humains, normalement, il doit y avoir des comités d'éthique qui se réunissent. J'ai rendu compte qu'il y avait un flou international qu'il fallait absolument combler et qu'il n'y a pas encore, en fait, de comité éthique spécial CRISPR. Je pense qu'il faudrait que ce soit monté au niveau international pour que ces protocoles soient évalués, et c'est un peu vertigineux, quoi, parce que tout le monde pourrait le faire. En fait, c'est pas une prouesse technologique immense, hein. Il faut pouvoir avoir accès à des embryons humains, ça, c'est plus ou moins facile suivant les pays. Il faut absolument que la communauté scientifique réagisse pour montrer qu'il y a des barrières. Il faut absolument qu'il y ait un moratoire, quelque chose qui soit établi, pour donner un message à la population générale, que ça peut pas se faire comme ça, dans sa cave, ou, enfin, c'est assez fou, quoi.
Avéré ou non, hein, ces bébés CRISPR soulèvent évidemment des questions éthiques liées à l'eugénisme, à l'homme augmenté. On peut également s'interroger sur la pertinence médicale et thérapeutique de cette méthode. Yi Zhangqi dit avoir voulu créer un vaccin contre le sida. En réalité, avec la technologie CRISPR-Cas9, il est allé modifier un gène impliqué dans l'infection du sida, le gène CCR5. On sait qu'il existe de rares personnes qui ont ce gène naturellement modifié et qui sont résistantes à l'infection du virus. Mais ici, ce n'est pas un gène pathologique, hein. Au contraire, c'est un gène sain qui a été modifié. Il faut aussi rappeler que ces modifications génétiques sont héréditaires et qu'elles peuvent affecter l'ensemble du génome. Karine Giovannangeli est généticienne au CNRS, INSERM, Muséum National d'Histoire Naturelle, et selon elle, l'état de la technique CRISPR-Cas9 n'est pas encore assez sûr ni prête pour une telle application clinique.
Le système CRISPR est très précis, hein, de manière générale, mais il peut néanmoins aller à d'autres endroits dans le génome qu'à l'endroit ciblé. On ne peut pas exclure aujourd'hui le fait que ça n'ait pas pu faire des choses ailleurs dans le génome. Donc ça, les effets sont assez peu attendus tant qu'on ne sait pas exactement ce que ça a fait et qu'on ne l'a pas étudié. Donc voilà, ça c'est la précision de l'édition du génome, ça peut être un point. Donc il faut vraiment aller qu'à un seul endroit, le vérifier et être sûr qu'on a fait ça et pas autre chose. D'accord, pour être sûr des conséquences que ça peut avoir. Dans un essai thérapeutique, c'est essentiel, quoi. Après, l'autre point, c'est que par exemple, dans le cas du gène CCR5 qui est ciblé ici, la fonction connue, c'est celle dont on a déjà parlé, c'est-à-dire de protéger d'une infection par le sida suite à cette modification induite par le système CRISPR dans le gène. Mais en fait, un gène n'a pas forcément une fonction unique, hein, et peut agir à différents niveaux. Il semblerait que ce gène CCR5 est connu pour être impliqué dans d'autres fonctions immunitaires ou même dans le développement cognitif. On pourrait avoir des effets qui sont autres que, supplémentaires à celui qu'on escomptait.
En bref, maintenant, le gouvernement a dévoilé avant-hier son programme national pour l'intelligence artificielle.
Objectif, transformer la France en leader mondial en matière d'IA. Le plan prévoit 665 millions d'euros sur 4 ans. Priorité au développement de l'IA dans le secteur transport et santé. Alors à Paris, Nice, Grenoble et Toulouse, des instituts interdisciplinaires de l'intelligence artificielle vont voir le jour. On les appelle les 3 IA, essentiellement axés sur la recherche fondamentale. 115 millions d'euros seront investis dans les super ordinateurs et 50 laboratoires spécialisés spécialisés en IA, les LabCom, vont être créés.
En bref, Gilles Bloch devient le nouveau président directeur général de l'INSERM et succède donc à Yves Lévy.
Docteur en biophysique moléculaire, Gilles Bloch est l'actuel président de l'université Paris-Saclay. Il prendra ses fonctions à partir du 2 janvier prochain. Et cette semaine, pour l'IRSEM, c'était aussi les prix INSERM 2018. 9 chercheurs et ingénieurs ont été récompensés. Le grand prix revient au biologiste Alain Tedgui pour ses recherches sur l'artérosclérose, l'une des principales causes des maladies cardiovasculaires.
Deuxième sujet de ce journal des sciences, lundi, tout le monde retenait son souffle, mais après quelques minutes de panique, d'angoisse et de stress, InSight a bel et bien atterri avec succès à la surface de Mars.
Oui, il y avait des hurlements de joie à la NASA, mais aussi pour le CNES, l'agence spatiale française, parce que les principaux instruments à bord sont français, notamment CEIS, un sismographe pas comme les autres. Grâce à lui, InSight va recueillir les premières données sismiques de la planète. Sa mission, mieux comprendre sa structure interne et plus généralement la géophysique des planètes telluriques. Est-ce que le noyau de Mars est solide ou liquide, par exemple? La semaine prochaine, une grue va se déployer pour déposer CEIS. Il a été conçu pour résister aux conditions martiennes. Sur Mars, on peut passer de 0 degré à moins 100 degrés en une journée. Philippe Lognonet de l'IPGP de Paris est responsable de cet instrument. CEIS va mesurer les vibrations du sol, mais pas seulement.
On va aussi mesurer la température. Et ça va nous permettre de détecter toutes les ondes sismiques qui vont passer. Mais en plus de ça, comme on n'a pas quand même une carte sismique, on va aussi enregistrer le vent, la pression, la température de l'air pour essayer de débarrasser nos données de toutes les sources de bruit venant de l'atmosphère. Et c'est ainsi que, à la fin, on va pouvoir bien isoler les tremblements de Mars quand ils vont arriver à la station pour essayer d'en déduire les propriétés de propagation des ondes sismiques dans la planète. On sait que Mars est une planète tellurique, on a sa quantité, on a son moment d'inertie, on a des propriétés qui viennent des météorites martiennes, donc on a quand même de bonnes idées de la minéralogie, mais on ne connaît pas la température, on ne connaît pas l'épaisseur de la croûte, on ne connaît pas avec précision la taille du noyau. Et vraiment l'objectif de cette expérience, c'est de mesurer avec des ondes, sous la forme d'un écho, tous ces objets. C'est vraiment passer du modèle à des observations qui, une fois qu'elles seront faites, nous permettront justement d'affiner nos modèles et surtout d'affiner nos modèles d'évolution de la planète Mars.
En bref, la publication cette semaine du National Climate Assessment, le rapport de 1000 pages sur le réchauffement climatique aux États-Unis et sur ses répercussions économiques, Natacha.
La température mondiale monte trop vite et elle pourrait encore augmenter de près de 1,3 degré Celsius d'ici 2050, dit le rapport. Et les conséquences économiques pour les États-Unis seront désastreuses, je cite. D'ici la fin du siècle, le réchauffement climatique pourrait coûter des centaines de milliards de dollars, soit 10% du PIB du pays. Selon les évaluations, l'agriculture est le premier secteur visé. C'est un rapport qui a été rédigé par plus de 300 scientifiques, il a été commandé par le Congrès américain et a été validé par l'administration de Donald Trump. Malgré tout, le président rejette en bloc cette étude et déclare ne pas y croire.
Mercredi, la découverte en Égypte de 8 sarcophages contenant chacun une momie.
Dont 3 en très bon état. Les images sont d'ailleurs assez réjouissantes. Elles proviennent de la pyramide de la nécropole de Dachour, au sud du Caire. Elles datent de la basse époque de l'Égypte antique, entre 700 et 300 avant Jésus-Christ. Cette découverte s'inscrit dans le programme franco-égyptien Scan Pyramids, qui vise à mieux explorer les pyramides et leurs chambres secrètes.
Une autre découverte au Brésil cette fois, une super colonie de termites vieille de 4000 ans et d'une surface aussi large que la Grande-Bretagne.
230 000 km², cette termitière millénaire est visible depuis l'espace. En surface, ça ressemble à des milliers de mottes de terre, mais cela cache un immense réseau de tunnels souterrains. C'est, je cite, la plus grande structure construite par une seule espèce d'insecte jamais découverte à ce jour.
Et pour finir par notre rubrique de sciences improbables, vous vouliez nous parler, Natacha, d'une étude sur le microbiote intestinal qui s'est mal conclue.
Alors c'est un domaine de recherche qui a le vent en poupe, hein, on en parle beaucoup. Alors pour soigner une maladie de l'intestin, le service gastro-entérologie de l'hôpital Saint-Antoine à Paris voulait tester une technique de transplantation fécale. Alors pour cela, il fait appel à des dons de sel avec à la clé un dédommagement de 50 euros. Une donneur de sel, c'est un peu d'implication physique, examen clinique, analyse sanguine, voilà. Sur les réseaux sociaux, cette simple affichette est devenue virale. L'annonce s'est transformée grosso modo en « Envoyez votre caca, vous recevrez 50 euros ». Résultat, l'hôpital croulait sous les dons. Un standard téléphonique saturé des donneurs qui venaient en permanence à l'accueil, à telle fois que l'étude a dû être interrompue. En tout cas, voilà ce que, tout ça pour dire que toute évidence, il manque des banques de sel en France.